Vous avez notre logo, donc tous nos documents seront tracés grâce à ce petit mur de tag où vous voyez les mots-clés de du BTS. Donc on a pris le référentiel des activités professionnelles, on a rentré ça dans un logiciel et les termes qui apparaissent le plus souvent sont écrits en plus gros. Donc vous avez gestion, PME, polyvalence, tout est dit pratiquement de ce que l'on va se raconter aujourd'hui. Alors le programme de la journée est assez simple. Il a été conçu autour de deux questions. La première question, c'est pourquoi une rénovation? Quelles sont les intentions? Et finalement, les changements en termes de contenu et d'attente vis-à-vis des étudiants et des candidats plus généralement. Donc, toute la matinée, on va parler grosso modo de didactique. Quel est le fond du référentiel, des référentiels des activités professionnelles? Comment est-ce qu'on le lit? Comment est-ce qu'on en traduit les intentions pour les étudiants, les apprentis, les stagiaires, les candidats? Donc déjeuner à 12h30, ça vous le savez. Et puis l'après-midi, on sera davantage sur les aspects pédagogiques, sur le comment faire. Voilà. Donc comment est-ce qu'on met en œuvre? Alors on laissera une place importante à quelques points. On ne prétend pas être exhaustif à couvrir l'ensemble du référentiel. Mais on a voulu mettre l'accent sur des points qui nous semblaient essentiels parce que en rupture peut-être par rapport à ce qui se faisait auparavant, ce sont des points qui sont renforcés. On pense notamment au rôle de l'enseignement de culture économique, juridique et managériale et à sa contribution à la professionnalisation. C'est un changement qui est important qu'il va nous falloir expliquer. L'environnement numérique et les savoirs informatiques qui sont traités de manière différente de ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Et puis également le statut de la communication, peut-être sur un angle davantage pédagogique, même si effectivement les intentions apparaîtront lors de l'intervention de l'après-midi. Alors, mon rôle ce matin pour cette première intervention est de vous présenter les grands principes. C'est une introduction générale, si vous voulez, aux interventions suivantes. Alors, on va parler de deux documents. Aujourd'hui, le premier, c'est un document officiel, le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification, ce qui correspond au référentiel du diplôme. Donc, ce document, vous le connaissez depuis le 26 janvier, de manière quasi officielle, parce que seule la publication au JO fait foi, donc c'est le document qui sera mis en ligne dans quelques jours, qui sera publié donc dans quelques jours ou quelques semaines, j'en sais rien, donc qui est composé de plusieurs parties. Alors on ne le voit pas très bien, mais vous connaissez cette en tête par cœur. On a les référentiels du diplôme avec le référentiel des activités professionnelles qui décrit finalement le métier. Donc c'est ce dont on va parler ce matin. Et puis le référentiel de certification qui décrit les compétences qui sont attendues et qui approfondit les activités qui constituent le référentiel des activités professionnelles. Et puis ensuite des annexes autour des modalités de certification, donc quelles sont les unités constitutives du diplôme. Quand on parle d'unités constitutives, on parle essentiellement des épreuves et sous-épreuves, les dispenses d'unités, le règlement d'examen, la définition des épreuves, donc, et puis l'organisation de la formation avec une grille horaire, les stages, les ateliers de professionnalisation. Voilà, donc ça c'est le document officiel, il a une valeur contractuelle, il engage les différentes parties prenantes, le certificateur, donc le ministère, le ministère par rapport aux moyens qu'il attribue aux académies et aux établissements, les établissements de formation qui s'engagent vis-à-vis des candidats et de leurs étudiants apprentis à assumer une formation qui est conforme au référentiel. Donc ce document, il est contractuel, il nous dit que faire, quel est l'objectif à atteindre. Et puis il y a un deuxième document que vous avez eu le temps de lire aussi puisqu'il est mis en ligne depuis hier soir à 22h. Il est mis en ligne depuis hier soir à 22h, donc voilà, qui précise, c'est le mode d'emploi. Alors comme tout beau mode d'emploi, on a l'impression qu'on peut s'en dispenser, sauf qu'à la fin, quand il nous reste un pan d'étagère ou quand l'armoire est bancale, on se dit qu'on aurait dû lire le mode d'emploi. Merci. On aurait dû lire le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, on vous en conseille la lecture. Il est plus sur l'explication. Voilà, il nous décrit le comment faire autour de plusieurs points, les choix d'écriture, le positionnement du BTS gestion de la PME, la place de la communication, l'environnement technologique et le système d'information, le lien avec les enseignements d'économie, droit et management, le rôle des ateliers de professionnalisation, le rôle des stages, les limites des savoirs, c'est-à-dire que le bornage qui apparaissait dans le référentiel encore actuel et qui n'apparaît pas peut-être dans le référentiel que l'on va vous présenter, les limites des savoirs sont précisées ici. Et puis les grands principes pour la répartition des enseignements, voilà. Mais on vous en dira, on n'en écrit pas beaucoup, puisque on considère que la répartition des enseignements, c'est d'abord l'affaire des équipes en établissement. Voilà, alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une rénovation ? La genèse du projet est venue d'un mandat qui nous a été donné par la 16e CPC, qui a demandé une étude préalable, une étude d'opportunité pour savoir s'il était nécessaire ou pas de rénover ce BTS gestion de la PME, assistant de gestion de la PME, PMI, pardon. Donc plusieurs d'entre vous ont été mis à contribution sous la forme d'enquêtes vis-à-vis enquêtes qui ont été conduites avec des professionnels, donc des chefs d'entreprise, dirigeants de PME, et puis aussi des assistants diplômés récents du BTS assistant de gestion PME-PMI. Donc on a eu un certain nombre de retours d'entretiens, et de ces entretiens, nous avons dégagé plusieurs éléments qui montraient que la rénovation était nécessaire. Le premier élément, c'est tout d'abord une évolution de l'emploi d'assistant. La notion d'assistant apparaît de plus en plus floue. On est davantage sur une mission d'interface en interne entre les différentes parties prenantes de la PME et puis en externe également entre la PME et ses différents partenaires, les clients, les fournisseurs, les administrations, etc., les banques, etc. Donc la notion d'assistant apparaissait de plus en plus floue. Et puis, le rôle d'interface apparaissait renforcé avec une dimension de communication qui apparaît très prégnante, presque essentielle à l'exercice de la mission. Dans le BTS actuel, la communication apparaissait presque déconnectée des autres activités. Là, un des travaux que nous avons conduits, un des points de vigilance que nous avons eu, c'était vraiment de mettre en relation la communication avec l'ensemble des activités du référentiel. Deuxième enjeu, c'est de nouveaux modes d'organisation avec un besoin croissant de polyvalence. Alors cette polyvalence, on la retrouve dans d'autres métiers, mais sous d'autres formes. La polyvalence en BTS gestion de la PME, je vais vous en parler après, ce n'est pas vu comme la capacité à agir dans des champs disciplinaires divers. C'est davantage vu comme la capacité à comprendre la PME dans sa globalité. On a, lors d'un entretien entendu, dans son écosystème, donc comprendre la PME, être capable de décrire toutes les conséquences qu'une décision prise au sein d'une PME peut avoir, notamment dans les relations avec les clients, les fournisseurs, en termes d'image, etc. On peut penser que la structure est relativement limitée ou peut-être cernée. Et donc, le rôle de l'assistant ou du titulaire des diplômes, eh bien, c'est de percevoir cette globalité de la PME. Troisième enjeu, troisième évolution que nous avons essayé de prendre en compte, c'est un environnement de plus en plus complexe qui nécessite une activité de veille, notamment par rapport à la réglementation, mais pas seulement. Veille par rapport à l'évolution de l'environnement dans ses dimensions commerciales, peut-être économiques aussi, d'où la question avec CEGM tout à l'heure. Développement des capacités d'analyse pour filtrer l'information, l'analyser, la structurer et la rendre accessible à celui qui en a besoin. Des activités de gestion à restructurer, c'est pas tellement les professionnels qui nous l'ont dit, c'est plutôt les membres du groupe de travail qui assurent la conception des sujets sur E5 qui avons eu cette idée, puisque sur l'étude de cas, on tourne un peu en rond, on évalue des choses qui ne sont pas vraisemblablement emblématiques d'un titulaire du diplôme. Et on passe à côté de l'évaluation d'éléments qui sont essentiels en gestion. Donc là, c'était plus un constat lié à la certification, d'une certification qui n'est pas adaptée à l'évaluation des compétences qui apparaissent comme essentielles sur le BTS actuel. Nouvelle digitalisation des activités, on va vous en parler. L'environnement numérique, vous savez un petit peu tout ce qui se passe en termes de digitalisation. Les PME ne sont évidemment pas à l'écart. Et pourtant, effectivement, la question de comment accompagner cette digitalisation des activités au sein d'une PME, cette question se pose, y compris pour un titulaire des diplômes à Bac plus 2. La prise en compte du risque dans la PME, c'est un point qui est ressorti de manière assez récurrente. Dans le BTS actuel, si on devait être dans une caricature, on a peut-être une lecture un peu exhaustive des risques ou encyclopédique des risques. On analyse différents risques. Ce qui nous a semblé important, c'est de pouvoir développer des méthodologies, repérer des invariants qui seraient ensuite appliqués à des situations ou à des risques, ce qui pourrait être d'ailleurs spécifique à une PME. Alors, on va vous en parler après dans la présentation des différentes activités, mais on a voulu mettre l'accent sur la méthodologie et puis d'appliquer cette méthodologie à quelques risques, tout en laissant la liberté aux équipes et aux étudiants ou aux apprentis de travailler cette méthodologie sur d'autres risques qui seraient rencontrés dans une PME spécifique. Voilà. Donc on quitte le registre des figures imposées, si vous voulez, pour être sur un programme libre, à condition d'être sur une méthodologie qui est robuste en termes d'analyse des risques. Un socle de compétences transversales, c'est vraisemblablement ce dont on nous a le plus parlé, maîtrise de la langue française. Alors on n'en parlera pas beaucoup cet après-midi, aujourd'hui, mais je vous renvoie à l'intervention qui a eu lieu hier après-midi sur le BTS, la présentation du BTS support à l'action managériale, puisqu'il y a une intervention de collègues maîtres de conférence de l'Académie de Grenoble, donc spécialiste de la langue française et de la linguistique. Évidemment, tout ce qui a été dit hier, on le prend. On n'a pas voulu répéter tout ce qui a été dit hier. Et on vous incite vraiment à faire référence à cette intervention sur la maîtrise de la langue française. Des travaux aussi sont conduits en établissement autour de cette question, comment améliorer la maîtrise de la langue française des étudiants à Bac plus 2. Socle de compétences transversales avec le travail en mode projet qui apparaît comme étant incontournable comme mode de travail, mais non pas comme un projet de développement de la PME. Les dirigeants de PME nous ont souvent dit que c'était exagéré, que c'était une perception qu'ils percevaient d'ailleurs assez mal qu'un stagiaire ou qu'un apprenti vienne leur dire je viens vous voir pour faire un projet nécessaire au développement de la PME. C'était parfois perçu comme une remise en cause de leur propre talent. Donc là, le projet apparaît, mais comme une modalité de travail collective pour tenir des échéances et non pas comme un projet au service du développement de la PME. Communication, on en a déjà parlé, mais on va vous en parler tout au long de la journée. Compétences liées au TIS, même chose. Des habiletés sociales, l'esprit critique, la créativité, la capacité à améliorer la productivité, etc. Et puis, un dernier point sur lequel on va passer très très vite, mais qui a été extrêmement structurant de notre travail. Toutes les rénovations aujourd'hui sont construites autour des blocs de compétences. Donc c'est un terme qui est peut-être nouveau pour vous. Ce qu'on vous propose, c'est tout simplement d'expliquer en quelques mots ce dont il s'agit. Alors, peut-être avant de parler de blocs de compétences, donc le métier auquel nous arrivons, la définition que nous donnons, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'un titulaire d'un BTS gestion de la PME? Donc il exerce des missions comme au titre de collaboratrice ou de collaborateur de la direction d'une très petite ou moyenne entreprise. Elle consiste en une coopération directe avec le dirigeant et la dirigeante. Donc, voilà, on va préciser un petit peu tout ça. Alors, la nouveauté par rapport au BTS que vous connaissez, c'est qu'on étend la notion de PME à d'autres organisations. Donc, ça a été validé par ces PME et présenté comme tel devant les différentes instances de ces PME. On peut étendre à d'autres organisations, à d'autres unités, à condition que les enjeux rencontrés dans ces organisations soient connexes ou identiques à ceux connus au sein de la PME. Je vous donne un exemple, c'est le cas des associations. Il existe à l'inspection générale une association professionnelle des inspecteurs généraux. Faire son stage à la PIGEN, ce qui est le nom, n'aura aucun sens parce que les enjeux en termes de pérennité, de risques financiers, pérennité, j'en sais rien, mais de risques financiers, en termes de risques financiers, sont tout à fait limités. Donc, évidemment, on ne rentre pas dans le champ du BTS gestion de la PME. En revanche, dans une association pour laquelle les enjeux en termes de risques, de relations clients-fournisseurs, de ressources humaines et puis de développement sont identiques à ceux d'une PME, alors, effectivement, on considérera que cette unité rentre dans le champ du référentiel. Voilà. Alors, vous verrez dans le document référentiel de formation, on a un paragraphe sur la relation de service. Et la relation de service nous semble tout à fait décrire le rôle du titulaire du diplôme. On est sur un principe de coopération, de coaction. On agit avec, agir pour l'autre et avec l'autre. Voilà, donc finalement, le cœur du métier décrit dans le BTS, dans ce référentiel, c'est une relation de service avec non seulement un dirigeant, mais aussi vis-à-vis de différents partenaires en interne, les autres salariés, et en externe, avec notamment les clients, les fournisseurs. Polyvalence, c'est un terme qu'on a utilisé dès le début. Donc la polyvalence, de quoi s'agit-il ? Alors, vous lisez la deuxième phrase, cette polyvalence ne doit pas s'entendre comme la détention d'une somme de spécialités. Donc c'est ce qu'on a connu dans la première version du BTS Assistant Gestion PME-PMI, où il y avait un pôle comptable, un pôle comme Orgar et un pôle commercial et un pôle ABI, c'était ça ? Oui, mais il y avait l'informatique, les outils informatiques. Donc tout ça, cette structure en silo a été balayée, évidemment déjà avec la rénovation de 2009. On est davantage sur une polyvalence qui se fonde sur la capacité à prendre en charge des dossiers variés qui nécessitent une compréhension globale de l'entreprise et la prise en compte de toutes ses contingences. Donc ce que l'on vise par le BTS dans ce référentiel, c'est effectivement de développer cette capacité chez les titulaires du diplôme, de développer cette capacité à prendre en compte la PME dans sa globalité. Donc c'est pour ça que dans chacune des activités, on met tellement l'accent sur l'analyse des situations de gestion, l'analyse des situations de communication, pour que dans chaque activité, le titulaire du diplôme, l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire, soit en mesure de comprendre les enjeux de ce qu'il va faire et de pouvoir situer son action et de prendre en compte l'ensemble des contingences. Voilà. Alors, la polyvalence liée à la gestion de la PME impose aux titulaires du diplôme d'avoir une perception globale de l'activité, de l'environnement de la PME, d'inscrire leur action dans le respect de la culture et de ses objectifs stratégiques. Mener une action, une activité dans une PME, c'est forcément spécifique ou singulier, ça ne ressemble pas à l'activité à la même activité, en tout cas dans sa domination, qui pourrait être mise en œuvre dans une autre PME parce que les contingences, les spécificités, la culture ne sont pas de même nature. Vous allez voir tout à l'heure, entendre tout à l'heure deux dirigeants de PME qui ont des activités récentes en communication et dans la digitalisation. Évidemment, ces PME qui sont tout à fait récentes ne fonctionnent pas tout à fait comme des PME qui auraient 50 ans d'histoire, etc., ou qui auraient une activité, entre guillemets, plus traditionnelle. Voilà. Alors, les blocs de compétences en quelques diapositives, ça va être très bref. Hein. Pourquoi est-ce qu'on nous parle tant de blocs de compétences ? Tout simplement parce qu'il y a une loi. La loi s'impose à nous, la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014, et le BTS, comme tous les diplômes professionnels, est concerné par cette loi. Pour que les diplômes de l'éducation nationale soient inscrits au RNCP, Répertoire national des compétences et des certifications professionnelles, pardon, il faut qu'ils soient structurés en blocs de compétences. Voilà, donc le travail qui nous a été demandé, c'est évidemment de structurer nos référentiels, et c'est le cas de tous les référentiels qui sortent en ce moment. Eh bien, on les structure en blocs de compétences. Alors vous allez voir que l'affaire est plutôt plus simple pour nous une fois que le travail est fait. Mais quand le travail est à faire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors on vous épargne tous les émois que nous avons eus à gérer tout au long du processus d'élaboration, mais le résultat est plutôt plus simple, plus lisible qu'il ne l'était auparavant. Donc, les diplômes de l'éducation nationale vont être inscrits au RNCP, et pour chaque diplôme, on fait apparaître les blocs de compétences, et une personne qui serait un adulte qui voudrait accéder au diplôme peut utiliser son CPF, son compte personnel formation, pour se former et préparer un bloc de compétences d'un diplôme éducation nationale. Alors, il y a d'autres aspects juridiques qui sont importants. La loi de 2013 sur le retour au droit en formation, qui est précisé par la circulaire de 2015, on peut penser que les blocs de compétences sont un moyen de permettre le retour en formation. Quelqu'un qui aurait quitté la formation pourrait partir avec son sac à dos rempli de blocs, de quelques blocs, sans que ça soit suffisant pour avoir le diplôme. Et au moment du retour en formation, il fait valoir ce qu'il a dans son sac à dos, c'est-à-dire les différents blocs qu'il aurait validés avant son départ. Et puis une demande des conseils régionaux qui sont évidemment des parties prenantes importantes dans le cadre de la formation professionnelle. Alors, si on regarde ce que ça donne en termes de structuration du diplôme, Finalement, les choses sont plus simples. Vous avez le référentiel des activités professionnelles qui est structuré en blocs d'activités. Alors pour nous, il y en a quatre pour le champ professionnel. À chaque bloc, donc, et ensuite, il y a une double bijection. Alors les flèches auraient pu être à double sens d'ailleurs. Chaque bloc d'activité correspond à un bloc de compétences. Et puis chaque bloc de compétences correspond à une unité. Alors une unité, c'est une épreuve ou une sous-épreuve. La particularité sur les BTS, c'est qu'on est limité à 6 épreuves. On en avait 3 pour l'enseignement général. Donc il a fallu trouver 4 unités pour valider les 4 blocs de compétences. C'est pour ça qu'on a une épreuve composée de 2 sous-épreuves, donc E5, et puis E6, qui est une épreuve à part entière. C'est tout simplement un artifice qu'il a fallu trouver pour répondre à cette double contrainte. Un bloc d'activité, un bloc de compétences devient une épreuve, enfin une unité, et puis de respecter la contrainte des 6 épreuves sur l'ensemble du diplôme. Voilà, donc on a une lisibilité qui est beaucoup plus forte. Le travail essentiel quand on est concepteur d'un référentiel, c'est évidemment de définir des blocs d'activité qui soient robustes pour que derrière les épreuves soient cohérentes. Voilà, alors construction des compétences, c'est un moyen d'appréhender notre affaire et de commencer à parler directement de ce que l'on a dans le référentiel. À la compétence, puisque c'est ce dont on parle le plus dans le référentiel. Compétences parce qu'on décrit des compétences dans chacune des activités. Hein. Vous avez vu, enfin, ça vous êtes présenté tout à l'heure la manière dont le référentiel a été écrit, mais on recentre vraiment l'attention sur les compétences. La compétence, elle est située, rattachée à une situation de travail. Alors, dans notre référentiel, dans le référentiel gestion de la PME, ça s'appelle une activité qui impose à chacun la nécessité d'accomplir une tâche. Donc, vous avez vu dans la structuration, pour chaque activité, il y a un certain nombre de tâches. De gérer des contraintes, d'utiliser des outils. Alors les contraintes, c'est tout ce qui est lié aux contingences de la PME. D'utiliser des outils, de mobiliser son expérience personnelle. On va vous en parler aussi tout au long de la journée. Comment cette expérience se construit, comment est-elle valorisée. Donc les connaissances, les situations vécues, observées, le réseau. Il nous semble important de préciser que le titulaire du diplôme a un réseau. Au sein de l'entreprise, mais aussi peut-être des personnes qu'il connaît à l'extérieur qui vont pouvoir l'aider à atteindre le résultat donc, qui est attendu et qui est décrit également pour chacune des activités. De fait, la compétence construite est reproductible et transférable, c'est-à-dire qu'une fois que la compétence est construite dans une activité, on peut effectivement l'utiliser réaliser ou accomplir des travaux dans une situation de nature comparable à celle dans laquelle il a construit cette compétence. Donc c'est l'hypothèse de transférabilité. On considère que la compétence est acquise si effectivement elle est transférable. Et puis la compétence est imbriquée dans un contexte qu'il faut décrire afin de l'expliciter, donc d'expliciter cette compétence. La notion de contexte et d'explicitation est une idée qu'on développera pratiquement à chacune des interventions, tant elle nous semble essentielle. Voilà, et puis pour terminer sur la notion de compétence, on a la compétence, il y a une compétence cognitive, les savoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétence s'il n'y a pas de savoir. C'est pour ça que pour chacune des activités, en essayant de cerner la compétence attachée à l'activité, on a des savoirs qui sont associés, donc compétences cognitives, composantes affectives, parce qu'il y a une part de personne liée à la personne. On n'est pas forcément obligé de réaliser le travail et d'avoir les mêmes résultats que ceux obtenus ou utilisés par un voisin ou par quelqu'un qui occuperait une posture comparable. Composante sociale, parce qu'effectivement, la notion d'environnement, de relation avec d'autres apparaît comme étant attachée à la notion de la compétence. Composante culturelle, y compris par rapport à l'expérience que l'on a. Donc on peut prendre l'image du sac à dos. Un parcours de formation, un parcours professionnel, c'est un sac à dos que l'on remplit au fur et à mesure que l'on avance. L'intérêt, c'est que plus le sac à dos est rempli, mieux on est outillé pour réaliser et dépasser des obstacles. Et puis une composante praxiologique. Alors, le terme est peut-être nouveau, mais en fait, vous le connaissez. Vous connaissez l'idée, en tout cas, c'est l'idée de la réflexivité. L'idée, c'est de passer de l'action, de l'analyse de l'action, du récit de l'action, à être sur l'analyse de ce qui a été fait, donc la réflexivité, quelles sont les difficultés auxquelles je me suis confronté, quels sont les moyens par lesquels j'ai dépassé ces obstacles, etc. Donc ça nous semble être, la réflexivité nous semble être un moyen à la fois de travailler sur la compétence, mais aussi de préparer les élèves, les apprentis, les étudiants, les stagiaires, etc., à développer ce qu'on appelle les capacités à apprendre tout au long de sa vie, c'est-à-dire de réfléchir à ce que l'on vient de faire ou comment on l'a fait, et vraisemblablement un moyen par lequel on peut développer cette attitude pour permettre de s'adapter aux évolutions professionnelles. Donc l'idée de la praxiologie, c'est tout simplement de quitter le récit, la réflexion dans l'action, ce que je fais, pour être davantage sur une réflexion sur l'action, a posteriori, pour pouvoir dire voilà pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, quelles ont été les difficultés, quelles ont été les démarches que j'ai mises en œuvre, comment est-ce que je m'en suis sorti, est-ce que je referais la même chose si je devais être confronté à la même situation, etc. Donc c'est bien cette aptitude à réfléchir sur, a posteriori sur le comment on l'a fait qui nous semble être essentielle. Et l'objectif, c'est bien évidemment de rendre les étudiants autonomes par rapport à cette attitude. L'objectif, c'est de les rendre autonomes, mais on a 2 ans de formation pour le faire et tout ça sera travaillé tout au long de la journée. Le rôle des savoirs, pour être sans ambiguïté, les savoirs sont incontournables quand on parle de compétences. Hein, les savoirs sont toujours présents dans le référentiel. Ils sont encore plus détaillés dans le référentiel de formation. Pour chaque activité, on détaille les savoirs et on les limite. Donc les savoirs sont évidemment essentiels et inhérents à la compétence. Un point quand même, alors la diapo est un peu, c'est un peu n'importe comment, mais on a 12 compétences, alors compétences transversales, c'est un point sur lequel nous sommes assez attendus pour toutes les rénovations de BTS. On a l'impression que toute la professionnalité se résume à ces compétences transversales. Alors, on a eu du mal à les définir. On en a sorti, on en a identifié une douzaine, alors à partir de différentes sources. Ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est qu'on a tenté de les prendre en compte chacune, alors de manière différente. Pour certaines compétences, alors ces compétences transversales, une compétence transversale, c'est ce qui permettrait l'adaptabilité, la capacité des professionnels à résister aux évolutions de l'environnement, évolutions technologiques, évolutions des conditions de travail, etc. Et donc, on a procédé de manière un peu empirique. On ne pouvait pas avoir un bloc de compétences transversales parce que les compétences transversales, par définition, elles ne sont pas attachées à une activité. Donc, l'hypothèse d'un bloc de compétences transversales nous apparaissait assez antinomique à ce que l'on voulait faire. Et donc, on a traité au cas par cas, de manière peut-être un peu empirique. Une première solution, c'était d'identifier des activités du référentiel. Par exemple, organiser son travail, qui est une compétence transversale. Eh bien, on a une activité travailler en mode projet, donc qui apparaît dans le domaine d'activité 2, parce que cette activité existe, elle peut être observée dans une organisation. Même chose sur travailler en groupe. Alors, on l'a dans le domaine d'activité 3, sur la fin, assurer une cohésion. C'est l'activité 3.3, on retrouve effectivement des éléments qui correspondent à travailler en groupe. Donc là encore, c'est observable. Il y a des activités qui consistent à installer le travail de groupe. Et puis, organiser une veille, c'est évidemment une activité qui est observable. On peut voir des professionnels assurer une veille. Alors, ce sont des activités, mais qui peuvent évidemment irriguer l'ensemble des autres activités. Ce n'est pas parce qu'elles sont identifiées comme activités que tout s'arrête avec cette activité. Non, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle puisse irriguer l'ensemble des autres activités si c'est nécessaire. Donc, première modalité pour travailler ces compétences transversales. Ensuite, prendre en compte la réglementation, c'est un peu tout le temps. Voilà. Dans chaque activité, peut-être qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on prend en compte la réglementation quand on quand on élabore un contrat, quand on propose un devis, quand on relance un client, peut-être qu'effectivement, il y a des points qui sont des points réglementaires. Quand on travaille sur la paye, etc., il y a une réglementation qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc, on peut considérer que c'est inhérent à chacune des activités. Utiliser les codes sociaux liés à son activité, ben, on le décrit dans l'environnement de travail, dans le contexte. Quels sont les éléments liés au contexte ? Ça renvoie à l'analyse des situations de communication. Voilà. Systématiquement, dans chacune des activités, dans les éléments de contexte, on fait apparaître des éléments de contexte liés à la communication et on demande au titulaire du diplôme de pouvoir prendre en compte ou d'analyser les enjeux de la situation de communication. C'est une manière d'intégrer les codes sociaux liés à son activité. Utiliser les TIC, c'est tout le temps aussi. Dans chacune des activités, les éléments de contexte laissent une place importante au TIC, s'adapter à des aléas. Utiliser les outils mathématiques dans l'étude de cas, comme aujourd'hui, il y aura de l'outil mathématique parce que ça paraît être un élément essentiel. Alors, on ne s'est pas posé la question longtemps, mais la question a dû être posée pendant 30 secondes. Est-ce qu'il nous faut un enseignement un peu quantitatif? Donc, ça sera tout le temps. Ne passons pas à côté des moments dans lesquels, au cours desquels, les futurs candidats vont travailler avec des outils mathématiques. Et c'est vrai, quel que soit le domaine, peut-être pas quelle que soit l'activité, alors, sans forcément aller très loin, mais être sur des raisonnements mathématiques, poser des logiques, etc., nous semble être incontournable en termes de compétences transversales. Troisième solution, c'est un enseignement. C'est-à-dire que pour irriguer, construire les compétences transversales en termes de communication écrite et orale, il nous semble important de pouvoir développer des capacités avec un enseignement parce qu'il y a une didactique spécifique de la communication. Donc on a voulu conserver cet enseignement de communication, même si effectivement ce n'est pas un bloc de compétences identifié comme tel, même si c'est si ce sont des compétences transversales, on a un enseignement de communication qui vise à irriguer l'ensemble des autres. Et puis, quatrième point d'appui pour développer ces compétences transversales, eh bien, ce sont des pratiques pédagogiques. Donc apprendre tout au long de la vie, organiser son parcours professionnel, apprendre tout au long de la vie, on en a parlé tout à l'heure avec la réflexivité, réfléchir à son action, réfléchir à ce qu'on a fait. On va vous parler cet après-midi d'une proposition de passeport professionnel. C'est un moyen, effectivement, d'associer l'organisation de ce parcours professionnel, de faire le point sur ce qu'on a fait, de repérer peut-être des fragilités, des points forts, et puis de réfléchir aussi à ce qu'une expérience nous apprend et permet pour remplir le fameux sac à dos dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc les compétences transversales, elles sont très présentes dans le référentiel, elles sont présentes partout, sous une forme ou sous une autre, chacune avec ses spécificités. Et c'est vraisemblablement là-dessus que les changements sont essentiels dans ce référentiel par rapport à ce que vous connaissez. Aujourd'hui, parce que c'est à la fois indispensable pour s'adapter, pour que les futurs titulaires soient adaptés ou des compétences attendues par rapport à ce qu'attendent les milieux économiques, mais aussi ce sont des éléments, des attendus que l'on évaluera au moment des différentes épreuves. Voilà, pour être très bref ensuite sur quelques points. Sur les TIC, on a essayé de rechercher une classification sur les compétences TIC. On a trouvé celle-ci. La source n'est pas indiquée, mais c'est une source qui vient de la Commission européenne. Bon, il y aurait trois niveaux. Le premier niveau se réfère à la capacité, à la manière efficace, d'accéder de manière efficace à de l'information pertinente, à l'évaluer et puis à l'utiliser avec justesse et créativité. Alors, on pense évidemment à l'activité de veille. Alors, au mois de janvier, vous avez eu une intervention de Claire Denezel, qui est professeure dans l'Académie de Bordeaux, qui évidemment pose tous les principes de la veille en BTS, gestion de la PME. La capsule vidéo est accessible. Vous avez tous les éléments pour évoquer cette question de la veille qui correspond donc à un niveau des compétences TIS. Le deuxième niveau se réfère aux connaissances techniques qui permettent d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est pour chaque activité. Il y a un environnement technologique qui est décrit, qui vous sera présenté ce matin. Donc être capable d'agir dans un environnement techno. Et puis le troisième niveau, c'est comprendre et utiliser les TIC pour régler des problèmes complexes, créer des produits ou des services en réponse à des exigences de la société du savoir. Donc ça apparaît de temps en temps, notamment pour lorsqu'on déploie des outils numériques pour créer des collectifs du travail, pour créer du travail collaboratif, pour favoriser le développement du système d'information et accompagner le développement de la PME, etc. Ce sont des éléments qui apparaissent également dans le référentiel. Voilà, et puis pour conclure sur ce point, donc je vais laisser la parole à Véronique Montmaron juste après. La structuration du référentiel, hein, vous l'avez, donc domaine d'activité, quatre domaines d'activité, gérer la relation avec les clients, les fournisseurs de la PME, qui correspond donc dans le référentiel de compétences à un bloc de compétences et qui correspond à une unité du référentiel de certification. Donc vous avez ces fameuses doubles bijections qui apparaissent très structurantes du référentiel. Donc deuxième domaine d'activité, participer à la gestion des risques de la PME. Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME. Le quatrième, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Voilà. J'avais préparé... alors, on a quand même ça à évoquer. On a quatre blocs de compétences qui correspondent chacun à un temps d'enseignement. On a évoqué la communication tout à l'heure. Donc, il y a un enseignement de communication. On n'a pas voulu diluer la communication dans l'ensemble des blocs. Parce qu'on s'est dit que si c'était partout, ça pouvait... voilà, vous avez lu ma pensée, notre pensée. Donc il y a un enseignement de communication qui apparaît renforcé en première année, mais qui continue en deuxième année. Et puis l'enseignement d'économie, droit et management. On a évoqué cela tout à l'heure, que les aspects réglementaires, managériaux, était renforcé dans l'activité du titulaire des diplômes. Et les liens sont à construire, alors on en parlera tout à l'heure, les liens sont à construire entre l'enseignement d'économie, droit et management, qu'on va appeler assez vite culture économique, juridique et managériale, pour qu'ils viennent irriguer, là encore, chacun des quatre blocs de compétences. Alors j'avais des petites choses à vous présenter, mais vous les aurez, vous aurez tous nos supports. Sur le domaine 1, il n'y a pas tellement d'activités nouvelles. Tout ce qui se fait, vous le connaissez, sauf qu'évidemment, l'imbrication de la dimension communicationnelle est très, très forte. Donc, il faudrait superposer ce schéma avec un calque qui serait relatif à la communication. Le changement sur ce domaine d'activité que vous connaissez, alors même s'il y a un regroupement client-fournisseur, parce qu'il y a des points de convergence, mais tout ça est pris dans un contexte qui est celui de la communication. Donc c'est le changement majeur qui apparaît. Sur le numéro 2, domaine d'activité, gérer les risques, la conduite d'une veille, parce que le premier risque pour la PME, c'est d'être en dehors de la réglementation. Deuxième nouveauté, c'est le travail en mode projet, parce qu'un deuxième risque de la PME, c'est de ne pas répondre à des échéances, des délais, etc. L'activité 2-3 qui vise à poser des principes en termes de méthodologie, donc mise en œuvre d'une démarche de gestion des risques de la PME où tous les points de convergence, quel que soit le risque à aborder, sont abordés ici. Donc c'est bien la méthode qui sera appliquée ensuite à différentes catégories de risques. 2-4, les risques financiers, parce qu'on considère qu'il y a une spécificité, que c'est quasiment un passage obligatoire. Aujourd'hui, la principale des vulnérabilités de la PME se fait autour des risques financiers, c'est-à-dire qu'on ne fait pas face à ces échéances financières. 2-5, sans viser une exhaustivité, l'objectif, ce n'est pas de traiter les 4, mais pas forcément de traiter les 4, mais c'est simplement d'équiper les étudiants pour qu'ils puissent être en mesure d'observer des risques en situation lors du stage, du deuxième stage. Donc on les équipe suffisamment pour qu'ils puissent être en situation d'analyse lors du deuxième stage, mais avec un focus particulier sur la gestion des risques informatiques et des risques liés aux données. Ça correspond une partie de ce que vous connaissez d'Aziri aujourd'hui, mais qu'on traite de manière assez différente de l'esprit dans lequel ils étaient abordés dans le référentiel actuel. Et puis la mise en place d'une démarche qualité au sein de la PME, parce qu'on considère que le fait ou la non-qualité constitue là encore un risque pour l'image de la PME ou tout simplement pour sa capacité à répondre aux besoins d'un client. Le troisième, on a des aspects. Alors c'est un pôle qui est renforcé ou un domaine qui est renforcé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était une forte demande. Gestion administrative du personnel, on est dans l'opérationnel. Gérer, on gère. Participation à la gestion des ressources humaines de la PME, on est simplement sur la participation en soutien aux chefs d'entreprise. Et puis l'activité 3.3, contribution à la cohésion interne de la PME, notamment avec les collectifs de travail. Et puis le quatrième, pour faire très, très bref, le quatrième point, donc vous retrouvez des éléments alors qu'ils seront évalués dans une étude de cas. Contribution à la qualité du système d'information de la PME. Donc on commence par ça parce qu'on considère que le système d'information est la condition du développement de la PME. Donc c'est un moyen d'accompagner la digitalisation. Donc système d'information, qu'est-ce qu'un système d'information, un système informatique, etc. Donc on retrouve l'autre partie d'Aziri que vous connaissez aujourd'hui, enfin une autre partie d'Aziri, intégrée comme une activité en tant que telle du domaine numéro 4. Après, organiser les activités de la PME, participer au développement commercial. Donc ça rentre dans l'étude de cas, mais ce n'est pas tout à fait nouveau par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Contribution à la mise en œuvre de la communication, alors communication globale de la PME cette fois-ci, non plus l'activité du titulaire du diplôme dans les activités, ce n'est pas sa propre communication, mais c'est la communication de la PME, c'est pour ça que ça correspond à une activité spécifique. Participation à l'analyse de l'activité de la PME, calcul de coûts, analyse de rentabilité, etc. Donc évaluer dans l'étude de cas. Participation au diagnostic financier de la PME, analyse fonctionnelle, bilan, compte de résultats. Et puis tableau de bord, tout ça évalué dans l'étude de cas. Voilà. Merci à vous. Vous trouverez ça, je ne vais pas reprendre de retard, mais vous aurez toutes les activités de gestion qui sont regroupées, montrer comment ces activités de gestion ont été regroupées. Mais finalement, je vous en ai parlé au fur et à mesure, vous aurez tout ça dans le support. Voilà.